Avec nous, général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Paris. Vincent Ventigem du service police-justice nous accompagne. Et on est également avec Marie-Christine Chastan-Morand. Bonjour, vous êtes l'avocate des parents de Jean-Marie et Christine Villemain, les parents de Grégory. Ce sont eux qui ont demandé à la justice de lancer de nouvelles expertises. Pourquoi ?
Oui, bonjour. Effectivement, il y avait déjà eu une décision qui avait ordonné des mesures d'investigation scientifique. Et Christine et Jean-Marie Villemain, au vu de ces expertises, ont estimé qu'il y avait peut-être des compléments à solliciter. Donc, cette décision qui vient d'être rendue ordonne des vérifications et ce sont des compléments par rapport à ce qui avait déjà été ordonné en matière d'ADN.
Maître, dites-nous très concrètement pourquoi vous avez demandé effectivement ces avancées. Parce que la police scientifique a fait des progrès ces dernières années en matière d'ADN et en matière de reconnaissance vocale, c'est bien ça ?
Oui, il y a deux choses. L'ADN, la justice y travaille sur l'ADN depuis la réouverture du dossier. Des investigations ont été effectuées, certaines sont en cours et d'autres donc vont être diligentées. Et puis, il y avait cette autre possibilité, cette autre piste, qui est celle des voix, puisque dans cette affaire, il y a les enregistrements du corbeau. Et il y a donc peut-être des investigations à diligenter pour faire des comparaisons entre la voix du corbeau qui a été enregistrée et la voix de certains personnages de cette affaire. Ceci n'avait pas encore été fait dans le cadre de la réouverture de l'information judiciaire.
Vincent Ventigem, en fait, dans cette affaire, il y a à la fois de l'ADN, mais de l'ADN très dégradé, évidemment, pas par les années. Et donc, cet ADN est peut-être aujourd'hui, peut aujourd'hui parler, c'est bien ça ?
Exactement. En fait, la science avance, et plus elle avance, plus on va être en mesure d'exploiter ce qui a été prélevé sur la scène de crime. On parle de quoi ici ? On parle d'ADN qui a été prélevé, isolé sur des éléments de la scène de crime. Les cordelettes qui ont enserré le petit garçon, l'anorak, le bonnet, son pantalon. On a ces ADN depuis déjà très longtemps, sauf qu'ils étaient mélangés, qu'ils étaient peu exploitables. Mais aujourd'hui, la science avance. On peut faire des recherches, par exemple, en parentèle sur des familles entières. Donc voilà, plus la science avance...
L'ADN par parentèle, voilà, c'est passionnant. Et puis, il y a la voix.
Et il y a la voix.
Il y a des enregistrements qui datent de ces années-là, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, du ou des corbeaux, n'est-ce pas ? La voix est difficilement reconnaissable. Et là encore, en procédant à la comparaison entre cet enregistrement et les voix de certains témoins toujours vivants, on va peut-être là aussi pouvoir avancer.
Alors là, on est juste sur une étude de faisabilité, c'est-à-dire de voir si ça va être possible. Mais effectivement, l'hypothèse de la justice dans ce dossier, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir une empreinte vocale comme on a une empreinte digitale, une empreinte génétique ? Donc on va faire évoluer la science, on va regarder ce qu'il est possible de faire par rapport à tous les enregistrements du corbeau ou des corbeaux, vous l'avez dit, parce que dans ce dossier, visiblement, il y avait plusieurs corbeaux. Et si on arrive à définir cette empreinte vocale, après, on pourra peut-être la comparer avec des protagonistes du dossier.
Mais François Daoust, comment on fait pour comparer une empreinte vocale ? On va devoir aller voir tous les proches de la famille de Grégory pour enregistrer leur voix et la comparer à des enregistrements existants ?
Alors, oui, certes, il y a ça, et il faudrait faire ça. Et comme le disait tout à l'heure l'autre journaliste, c'est une étude de faisabilité. Je rappelle que nous sommes 40 ans en arrière, que nous sommes dans des moyens qui sont des moyens analogiques, alors que maintenant nous avons que des moyens numériques, nos téléphones sont numériques, les conversations sont enregistrées en numérique, et les moyens analogiques de l'époque, eh bien, avaient la déplorable habitude de décréter le signal, c'est-à-dire qu'une partie de la voix est effacée sans qu'on s'en rende compte. Mais pour comparer, c'est difficile. Donc il va falloir récupérer l'ensemble des enregistrements, déjà mettre ceux qui sont ensemble et du même locuteur, et après après récupérer d'autres enregistrements, y compris de personnes qui seraient décédées depuis, que l'on pourrait avoir pour les traiter de façon à savoir si c'est comparable ou pas. Donc on voit bien qu'il y a déjà un très gros travail de préparation pour voir la faisabilité. Et pour ceux qui seraient encore vivants, eh bien c'est faire des enregistrements, sachant que même si le fond de notre voix reste, nous est propre, on a quand même un écrêtage naturel qui est dû à l'âge, qui est dû à la maladie, qui est dû à beaucoup de choses, qui fait qu'il peut y avoir des variations qui viennent interférer. La voix va être quelque chose d'annexe par rapport à l'ADN.
Dominique, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'en fait, depuis 40 ans, on se rend compte régulièrement que l'enquête ne s'est jamais arrêtée.
Bien sûr, parce que les parents demandent des actes, parce que la justice fait des actes, parce que les avocats soutiennent les parents, et que chaque acte, celui-ci en est un, hein, expertise ADN, expertise des voix, chaque acte repousse d'autant les délais de prescription. Donc là, on est reparti encore pour 20 ans. Donc cette affaire, évidemment, ne s'arrête pas parce que tout le monde fait en sorte qu'elle continue à vivre, à exister juridiquement et judiciairement.
Pour ceux qui, évidemment, les plus jeunes d'entre nous, qui n'ont pas la globalité de l'affaire en tête, 40 ans, donc cet enfant qui est retrouvé noyé dans les eaux de la Vologne,
16 octobre 84,
avec de multiples rebondissements. Est-ce qu'au fil des années, des suspects se sont dégagés?
Alors d'abord, on a pensé à Bernard Laroche, évidemment parce qu'il y avait le témoignage de Muriel Boll qui disait il est venu nous chercher à l'école et on s'est arrêté le long de la route pour qu'il aille chercher un petit garçon. Il est descendu au bord de la rivière avec le petit garçon, il est remonté sans lui. Donc évidemment, c'était quand même accablant. Muriel Boll est revenu sur ses accusations. Bernard Laroche, prison, sorti de prison, libéré, tué par Jean-Marie Villemain. Je vous rappelle l'épisode quand même de la maman de Grégory, Christine Villemain, qui était elle-même placée en détention avant de ressortir et d'être complètement blanchie. Et puis, il y a le complot familial. On est dans la vallée de la Vologne, avec une famille dont certains membres se détestent, des jalousies. Oui. Le père de Grégory qui a réussi. Bon, et des lettres, ces lettres de Corbeau dont Vincent parlait tout à l'heure. Des lettres, des appels, l'affaire, c'est vrai, continue à exister.
Vous vous rendez compte, Grégory, il aurait 44 ans aujourd'hui. Ouais. Comment Jean-Marie et Christine Villemain réagissent-ils à la poursuite de ces investigations? Au fil de toutes ces années, on imagine qu'ils ont toujours, ils n'ont jamais rien lâché, ils ont toujours été tenus au courant de l'évolution de l'enquête.
Ah oui, ils n'ont pas lâché, pour reprendre votre expression, effectivement. Ils sont vraiment déterminés à vouloir tout faire pour faire jaillir la vérité, pour savoir ce qui s'est passé. Et ce qu'il y a d'intéressant, là, ils sont extrêmement satisfaits, bien évidemment, de cette décision, notamment concernant l'enquête de faisabilité, l'expertise de faisabilité concernant les voix. Parce que si on a les enregistrements du corbeau, et j'entendais ce que disait votre intervenant tout à l'heure, pour faire des comparaisons, puisqu'on sait que la voix évolue, hein, bien évidemment avec l'âge, mais pour faire des comparaisons dans cette affaire, beaucoup de personnes se sont exprimées de façon naturelle devant les caméras, et il existe des enregistrements qui sont contemporains aux enregistrements du corbeau. Voilà pourquoi il y a une possibilité, ce sera peut-être difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible, et vraiment dans leur esprit à Christine et Jean-Marie, c'est ne pas laisser d'investigation qui pourrait être faite et qui ne le soit pas. Ne pas perdre une chance de connaître la vérité. C'est véritablement le moteur qui les anime.
Quel âge ils ont aujourd'hui, Jean-Marie et Christine Villemain?
Ah ben maintenant, c'était des tout jeunes gens. Maintenant, ils ont 60 ans. Ils étaient tout jeunes. On leur a assassiné leur enfant unique. Maintenant, ils sont parents et grands-parents. Les années ont passé. On est bientôt, cette année en tout cas, à 40 ans de la date des faits.
Général Daoust, ce qu'on se dit en écoutant tout ça, c'est que le crime parfait est de plus en plus difficile. Vous, est-ce que, ancien patron de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, est-ce que vous pensez que l'on va connaître enfin la vérité sur cette affaire ?
Alors j'espère, parce qu'elle a mobilisé tout le monde. Ça a été, elle est à l'origine aussi, il faut le savoir, en France, d'une révolution des moyens et de la police technique et scientifique, tant pour la police que pour la gendarmerie. Donc ça a été un coup de boutoir énorme. Donc là-dessus, on a maintenant des moyens. On espère que ces derniers éléments, et notamment l'ADN qui pourrait être sur des scellés, s'ils ont bien été conservés, puisse apporter quelques réponses. Ça, c'est un espoir que tout le monde a, parce que 40 ans, ouais, c'est toute ma carrière. Je suis rentré en gendarmerie en septembre 1984 et j'ai vécu avec en fond cette affaire, comme tous les enquêteurs, avec point d'interrogation, mais derrière, des progrès scientifiques qui montrent qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui existe, mm-hmm, mais continuer à développer.
Voilà, je vous conseille, si vous êtes passionné par la police scientifique, je vous conseille cet ouvrage de François Daoust, coécrit avec Jacques Pradel, Le choc du futur, qui concerne évidemment tous les secrets et tout ce que peut permettre la police scientifique.
Moi, je vous conseille ce livre d'un certain Vincent Ventighem qui vient de sortir, Les défendre tous, préfacé par François Molins. Un livre qui raconte en fait les dernières affaires et surtout les avocats impliqués dans ces affaires.
Le lien humain entre les avocats et leurs clients.